Donc, je disais bonjour à toutes et à tous. Alors, comme c'est indiqué sur l'ardoise qui est devant, bienvenue à l'église de la Pie. Alors, on n'a pas changé de nom, hein, mais tout simplement, effectivement, on a juste changé de salle. Et une des raisons évoquées pour avancer l'heure du culte était, je cite, plus éveillé le matin et plus réceptif le matin que l'après-midi. Alors, merci Seigneur si son peuple est plus réceptif le matin. Outre cela, c'est une vraie joie de se retrouver effectivement dès le matin pour adorer Dieu et pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Nous arrivons bientôt à la fin de l'épître aux Colossiens et j'en rappelle juste le contexte. L'apôtre Paul est en prison au moment où il écrit cette lettre. Il est en prison à cause de l'évangile. Et effectivement, ça n'empêche pas d'écrire des lettres ou de faire écrire des lettres. Et il semble que Colossiens a été rédigé à peu près en même temps qu'Éphésiens, la lettre aux Éphésiens. Et que c'est pour cela que nous retrouvons dans les deux lettres des recommandations qui sont similaires. Concernant l'Église de Colosse, Paul doit leur rappeler qu'en Christ, ils ont tout pleinement. Et qu'ils n'ont pas besoin d'autres spiritualités qui reposent sur des règles à respecter, sur des privations à s'imposer ou sur la tradition des hommes. Non, ils ont déjà Christ et c'est amplement suffisant. Pour le dire encore autrement, pour s'approcher de Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure aussi, pour s'approcher de Dieu, Christ seul suffit. Et par Christ, eh bien, les Colossiens sont réconciliés avec Dieu. Leurs péchés sont pardonnés. Ils sont morts avec Christ au principe du monde et ils sont ressuscités avec Christ. N'ayant une nouvelle vie. Et la dernière fois, nous avions récapitulé le début du chapitre 3 par trois impératifs. Recherchez les choses d'en haut. Faites mourir les péchés dans lesquels vous trouviez tant de plaisir auparavant. Et revêtez-vous de toutes les qualités qui sont aussi celles de Christ. Et à ce stade de notre lecture de l'Épître aux Colossiens, nous devons de nouveau nous poser cette question. Si j'ai tout pleinement en Christ, ma vie est-elle centrée sur Christ? Si Christ m'est totalement suffisant, est-ce que ma vie est centrée sur lui? Est-ce que je pourrais m'en apercevoir juste en vous observant dans votre quotidien, à la maison ou au travail? Est-ce que vous le verriez en observant comment je me comporte avec ma femme ou avec ceux qui ne partagent pas notre foi? Et Paul parle de toutes ces relations dans le texte que nous avons lu et qui suit un verset que nous avons vu la dernière fois. Et je le relis, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dieu ne demande pas aux chrétiens de vivre autrement. En parole et en acte, effectivement, faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Dans notre famille, dans notre travail et dans notre évangélisation. C'est les trois moments que je vous propose de voir ensemble à partir du texte d'aujourd'hui. D'abord dans notre famille. Alors, je suis assez régulièrement l'actualité, et rares sont les semaines où il n'est pas question d'un drame survenu au sein d'une famille en France. Et souvent, les premières victimes sont les femmes et les enfants. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a pourtant quelque chose à dire sur la vie de famille. Et mettre en pratique ce qu'il demande aux uns et aux autres permettrait à coup sûr d'éviter de terribles drames. Par ces instructions que Paul donne, les chrétiens de Colosse sont aussi instruits de la volonté de Dieu. Nous pouvons imaginer qu'au moment où cette lettre a été lue, eh bien, il y avait présent tout type de catégories. Celles qui sont mariées, ceux qui sont mariés, les enfants, les pères de famille. Et chacun a une responsabilité devant Dieu. Interpellé par l'apôtre Paul, chacun a une responsabilité devant Dieu dans sa manière de vivre ses relations avec les autres membres de la famille. Lorsque nous comparons notre texte avec l'Épître aux Éphésiens, chapitres 5 et 6, nous remarquons que pour les Colossiens, Paul est assez bref sur les instructions qu'il donne concernant la famille. Il est plus bref, en tout cas, que ce qu'il écrit aux Éphésiens. Nous devons aussi rappeler qu'à l'époque, toute l'autorité revenait à l'homme, chef de la famille, celui qu'on appelle en latin le pater familias, celui qui avait droit de vie et de mort sur sa femme, sur ses enfants, et sur tous ceux qui vivaient sous le même toit. Et nous devinons que des drames aussi, à cette époque, devaient arriver dans la famille, lorsque, par exemple, sur un coup de tête, le chef de famille décide de faire exécuter telle ou telle personne de la maison. Et contrairement à notre époque, eh bien, cela était couvert par le droit, parce qu'il avait droit de vie ou de mort sur n'importe qui dans sa famille. Pourtant, le chef de famille qui se convertit au Christ ne va plus se comporter comme les autres. Il n'ira pas jusqu'à abuser de son autorité comme nous allons le voir. Et pour chaque père que nous voyons dans notre texte, pour chaque groupe de deux, Paul commence par les personnes qui étaient plus vulnérables dans la société de l'époque. Les femmes, les enfants et les esclaves. Je vous propose de regarder d'abord la première paire, versets 18 et 19. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » L'an dernier, j'avais déjà eu l'occasion de prêcher sur le texte d'Éphésiens 5, qui comporte aussi l'instruction de la soumission. Et je ne dirai ici que quelques mots. D'abord, lorsque Paul parle de la soumission, lorsqu'il demande aux femmes chrétiennes de se soumettre à leur mari, il ne demande pas quelque chose de dégradant, de dévalorisant pour elle. Et c'est vrai que bon nombre de personnes aujourd'hui qui s'insurgent contre de tels versets, eh bien, les lisent en fait avec les lunettes de notre pensée moderne. Nous avons besoin d'enlever ces lunettes-là pour nous replacer dans le contexte. Et surtout, pour nous replacer dans la pensée que Dieu a lorsqu'il dit cela dans sa parole. Deuxièmement, ce ne sont pas aux maris d'imposer la soumission à leur femme. Parce que vous le remarquez, Paul s'adresse à qui ? Il s'adresse directement aux femmes. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Elles doivent le faire d'elles-mêmes, car c'est un acte volontaire de leur part. Ce n'est pas au mari d'imposer cela à leur femme. Et puis enfin, l'épouse qui se soumet à son mari agit de cette manière avant tout par égard pour le Seigneur. Avant tout parce que c'est une attitude convient lorsque nous appartenons au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que les femmes de l'époque n'avaient pas forcément en vue si elles n'étaient pas chrétiennes. Mais aux femmes chrétiennes, Paul demande qu'elles se soumettent à leur mari. Cette soumission ne signifie pas que l'épouse doit faire tout ce que son mari demande sans discernement. Si le mari incite sa femme à pécher, eh bien, elle n'a pas à le suivre dans sa folie. Sa soumission au Seigneur sera toujours première. Et parce qu'elle veut plaire au Seigneur en premier lieu, eh bien, l'épouse entendra d'une bonne oreille cet appel de l'apôtre Paul. Femme, soumettez-vous à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Et ce sera d'autant plus facile si les maris font aussi leur part en suivant deux impératifs. Aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ou ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Alors concernant l'amour, comme nous pouvons le lire en Éphésiens 5, le modèle pour les maris est Christ. Christ qui a aimé l'Église au point de donner sa vie. Voilà le type d'amour qui est demandé au mari. Un amour qui se donne. Un amour où le mari est prêt à se sacrifier pour le bien de sa femme. Un amour où les intérêts de l'épouse passent avant ceux du mari. Et dans un contexte d'époque où les maris avaient tout pouvoir, Paul demande aux maris chrétiens de ne pas nourrir d'aigreur, de ne pas nourrir d'amertume dans leur cœur par rapport à leur femme. Leur femme n'est pas parfaite. Elle peut commettre des erreurs, ce qui n'est pas une raison pour nourrir les sentiments négatifs qui, avec le temps, peuvent conduire au drame. Nous pouvons imaginer qu'aujourd'hui, si on parle beaucoup de féminicide, c'est parce que sans doute, dans le cœur du conjoint en question, il y avait beaucoup d'éclat, beaucoup d'amertume, au point de vouloir tuer son épouse. Eh bien, l'apôtre Paul dit ici, ne vous nourrissez pas d'aigreur dans votre cœur. La semaine dernière, j'étais à cette conférence pour hommes où l'orateur prêchait sur le début de Marc 10, de l'évangile de Marc, chapitre 10. Ce moment où les pharisiens interrogent Jésus sur le divorce. Et Jésus évoque au cours du dialogue la dureté du cœur humain. Pourquoi Dieu a permis que le divorce soit possible? À cause de la dureté du cœur humain. Et l'orateur en question nous a interpellé sur la dureté du cœur. Et je veux particulièrement interpeller les frères parmi nous qui sont mariés, et peut-être depuis longtemps. Méfie-toi de la dureté de ton cœur. Ne laisse pas entrer la nature. Pardonne à ta femme comme Christ t'a pardonné. Et entends de nouveau ce que Paul dit ici. Marie, aimez votre femme. Et assurément, ce n'est pas un amour qui repose sur le mérite de l'autre. Tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle le mérite. Christ n'a pas aimé l'Église parce qu'elle le mérite. Tu aimes ta femme parce que Christ t'a aimé et t'a fait grâce. Ce qui est différent. Méfie-toi de la dureté de ton cœur. La deuxième peur concerne la relation entre enfants et parents. Verset 20, enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Là aussi, Paul donne une instruction en s'adressant directement aux enfants. N'était même pas imaginable à l'époque où de toute façon les enfants avaient beaucoup d'importance. Mais ici, Paul s'adresse directement aux enfants dans cette lettre. Et lorsque cette lettre est lue, vous pouvez imaginer que les enfants qui sont là dans l'auditoire eh bien, entendent les instructions de Paul. Obéissez en tout à vos parents. En ajoutant la raison à cette obéissance, car cela est agréable au Seigneur. Alors bien sûr, l'obéissance plaît aux parents. C'est certain. Lorsqu'on donne des ordres et qu'on est écouté, cela nous plaît. Mais ce n'est pas le cas de l'obéissance des enfants. Si l'enfant obéit à ses parents, c'est avant tout parce qu'il comprend ce que Dieu veut pour lui. C'est parce qu'il le fait par égard pour Dieu, pour le Seigneur. Et dans la mesure où l'enfant vit encore chez ses parents, dans la mesure où il dépend encore d'eux, eh bien assurément, cette exhortation de Paul les concerne. Obéissez en tout. Mais de nouveau, il faut préciser quand on dit obéir en tout, bien sûr c'est l'attitude générale. Il est préférable que l'enfant soit obéissant que désobéissant. Mais l'attitude générale à laquelle nous rappelons la même exception que pour la soumission des épouses chrétiennes. Obéir à ses parents, oui, tant qu'ils ne demandent pas quelque chose de contraire à la volonté du Seigneur, comme par exemple mentir. Je suis assez étonné d'entendre souvent ce genre d'histoire où des parents demandent à leurs enfants de mentir. Pour diverses raisons, pour diverses situations. Et bien là, dans ce cas-là, les enfants ne sont pas en droit d'obéir à leurs parents. À cause du Seigneur. Et quant au père, vous vous souvenez, je vous ai dit que le chef de famille avait le droit de vie ou de mort sur les enfants. Quant au père, eh bien, ce qu'il leur est demandé, c'est de ne pas exaspérer leurs enfants, de ne pas provoquer leur colère. De ne pas susciter du découragement chez eux. Notamment, par exemple,
une sévérité extrême. Le père est appelé à aimer son enfant, en tenant compte du fait que l'enfant est en formation. Il est encore en train d'être formé. Comment peut-on se montrer trop dur envers lui? Il apprend. Le père doit avoir en vue le bien de l'enfant. Il doit veiller à ce qu'il ne se décourage pas par des paroles trop dures ou par une éducation trop stricte. Et bien sûr, les mères, qui détiennent aussi l'autorité parentale, doivent agir dans le même sens. Le professeur Dominique Anger liste une manière de provoquer la colère de nos enfants. Et j'en donne juste quelques exemples. Comment peut-on provoquer la colère de nos enfants ou les décourager? En donnant un mauvais exemple, en ne faisant pas ce qu'on enseigne, on dit une chose, mais on en fait une autre. Par des punitions sous le coup de la colère, plutôt que pour chercher réellement le bien de l'enfant. La comparaison qu'on fait entre les enfants, regarde ton frère, il fait bien mieux que toi. Le manque de communication qu'il y a entre parents et enfants. Ou la négligence qu'on peut avoir à leur égard. Et puis, autre exemple encore, des exigences qui sont peu réalistes et peu raisonnables envers un enfant, quel que soit son âge. Si Paul s'adresse expressément au père, c'est pour qu'ils assument leur responsabilité devant Dieu. Et si malheureusement, par rapport à tout ce que j'ai dit concernant la famille, nous ne voyons pas cela toujours dans tous les foyers chrétiens, c'est pourtant ainsi que les personnes qui ont répondu à l'appel de Christ devraient se comporter dans la famille. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons revêtu l'homme nouveau qui va dans le sens de l'amour, qui va dans le sens de l'encouragement, en nous débarrassant du vieil homme qui préfère l'amertume et le découragement. Devenir chrétien change nécessairement notre manière de vivre nos relations familiales. Comment le Seigneur t'interpelle ce matin? En tant que femme, en tant que mari, en tant qu'enfant, ou en tant que père, ou en tant que mère. Comment le Seigneur t'interpelle? Nous avons tellement besoin, en tant que chrétiens, que l'Esprit de Dieu nous aide. Cet Esprit qui nous a été donné pour que nous puissions mettre en application ce que nous entendons ce matin. Et il n'y a pas besoin d'attendre d'être appelé. Parce que lorsque nous venons en famille à l'église, nous vivons aussi ces relations. Déjà dans la voiture, à l'aller comme au retour, mais aussi lorsque vous interagissez ici, en tant que mari et femme, en tant que parent et enfant. Vous vivez ces réalités aussi lorsque vous êtes ici. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être à la maison pour mettre en application ce que Paul nous dit. Et pour celles et ceux qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas d'enfants, gardons ces instructions en tête. Car c'est ce que le Seigneur demande comme ligne de conduite. Et le jour où votre situation changera, vous aurez aussi la responsabilité d'agir comme il convient dans le Seigneur. Faisons tout au nom du Seigneur dans notre famille, mais aussi dans notre travail. Et j'en viens au verset suivant. Mais d'abord une question, pour que vous puissiez participer un petit peu. Un petit sondage pour que je vous sache un petit peu où vous en êtes. Alors ça va particulièrement concerner ceux qui travaillent. Mais d'abord, qui aime le travail qu'il fait ou qu'elle fait? Bravo. Qui n'aime pas le travail qu'il fait? Il y en a quand même. Qui voudrait quand même s'il aime son travail, qui voudrait changer de travail si on avait la possibilité, soit changer de lieu de travail, soit faire toute autre chose? Et avant de parler de travail, il faut d'abord qu'on reste dans le contexte de notre passage. Parce que dans notre passage, en tant que tel, il est question de l'esclavage. Alors je ne suis pas en train de dire que le travail que vous faites est un travail d'esclave, mais nous devons quand même en parler un petit peu. Parce que l'esclavage, en tout cas de l'époque, nous paraît aujourd'hui être un système non seulement révoltant, mais aussi totalement inadéquat. Et je n'ai pas le temps d'approfondir la question, mais si cela vous intéresse, de comprendre pourquoi Paul par exemple, n'a pas tenu un discours qui allait plus dans le sens d'abolir l'esclavage, ben, je pourrais vous communiquer des ressources. Vous venez m'en parler, on peut en discuter ensemble. Et là, pour cette prédication, je n'aurai pas le temps d'aller trop loin là-dessus. Je citerai juste une conclusion à cette discussion que propose Dominique Angers. Voici ce qu'il écrit. « La mise en pratique des exhortations de Paul adressées aux esclaves et aux maîtres ne pouvait que favoriser le déclin de l'esclavage en tant qu'institution. » Autrement dit, si les esclaves et les maîtres faisaient ce que Paul recommande, eh bien ce serait la fin de l'esclavage en tant que système. En tout cas, ça conduirait à cela. Et en tant que tel, je ne devrais pas séparer la troisième paire qui concerne toujours les relations au sein d'une même maison. Je ne devrais pas séparer de ce qui précède. Parce qu'en fait, les esclaves, à cette époque, vivaient avec leur maître. Leur maître qui avait tout pouvoir sur eux. Et d'un point de vue légal, eh bien, les esclaves n'étaient pas moins que des objets qui appartenaient au chef de famille, propriété du chef de famille. Aristote disait des esclaves qu'ils étaient des outils vivants. Vous imaginez un peu la conception de l'époque. Ce sont des outils vivants, des outils avec une âme en eux. Et pourtant, Paul ne les voit pas ainsi. Et il s'adresse à eux aussi. Imaginez toujours la lecture de cette lettre. Les esclaves sont présents dans l'auditoire, ils s'adressent à eux. Donc ce ne sont pas des outils vivants, ils s'adressent à eux en tant que personne. Et voici ce que nous lisons. Verset 22. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. Et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, par la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage, pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme. Nous remarquons donc cette même exhortation aux enfants. Verset 22. Obéissez en tout. Paul encourage les esclaves de l'époque à travailler de tout leur cœur, littéralement de toute leur âme, au-delà du fait de plaire à leur maître. Et remarquez que leur travail ne doit pas être superficiel. Ils ne doivent pas simplement faire lorsqu'ils sont surveillés, mais ils doivent être accomplis avec sincérité de cœur, pour la crainte de Dieu. Et encore une fois, la motivation de l'esclave chrétien est d'abord de plaire à son Seigneur. Si les maîtres pouvaient être durs avec leurs esclaves, il est certain que tous les esclaves n'étaient pas forcément très honnêtes non plus. C'est pourquoi Paul insiste sur ce qui doit animer les esclaves chrétiens. Faites-le de tout votre cœur, verset 23, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Faites votre travail de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et l'apôtre leur rappelle en plus qu'ils auront un héritage bien plus précieux que tout ce qu'ils pouvaient espérer ici-bas. D'un point de vue légal, les esclaves ne pouvaient pas espérer grand-chose. Pas d'héritage en plus pour eux. Ce sont des esclaves, des outils vivants. Mais Paul met en avant leur espérance. Ils recevront la vie éternelle auprès du Seigneur. Non pas parce qu'ils auront bien travaillé, mais parce qu'ils ont mis leur confiance en Christ. Et donc Paul leur rappelle leur espérance. C'est ce qui vous attend. Mais parce que c'est cela qui vous attend, travaillez de tout votre cœur. Et Paul n'autorise aucun laisser-aller. Regardez le verset 25. Celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Dieu défend de rendre le mal pour le mal. Si l'esclave est dans une situation où il est traité durement, il ne devrait pas négliger ce travail pour autant. Pour le dire encore autrement, l'esclave qui est traité durement ne pourra pas justifier son travail mal fait devant Dieu, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu Dieu ne va pas s'apitoyer sur notre sort si nous connaissons des conditions difficiles pour excuser notre mauvais comportement au travail, pour le dire encore autrement. Si aujourd'hui l'esclavage ne fait plus partie de notre système social, eh bien nous trouverons dans ces paroles de Paul des principes qui nous rappellent comment nous devons nous comporter en tant qu'employés, comment nous devons voir notre travail. Et il plaît au Seigneur que nous travaillions en pensant à lui. Aucun domaine de notre vie n'échappe à sa seigneurie. Et ce n'est pas parce qu'on arrive au bureau ou sur notre lieu de travail que tout d'un coup, eh bien, nous ne pensons plus au Seigneur. Travaillons. Travaillons pour plaire au Seigneur. Que notre employeur soit chrétien ou non. Et le Seigneur que nous servons, c'est Christ, qui est au-dessus de notre patron. Nous devons songer à cela. Nous avons certes un supérieur, un patron peut-être pour qui nous travaillons, mais au-dessus de lui, il y a Christ. Et c'est lui notre motivation. Nous devons aussi être sensibles à l'avertissement du verset 25. Parce que si nous nous permettons de ne pas bien faire notre travail, Dieu saura nous payer le salaire de notre injustice. Et j'ai trouvé cet exemple pour notre société moderne, d'un sociologue chrétien, qui dit, finalement, qu'est-ce qu'un employé injuste? Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui ne joue pas le jeu, qui se planque, comme on dit, hein, ce sont ces termes, qui laisse les autres faire le boulot, et qui se comporte comme un passager clandestin, profitant du travail du groupe, sans faire sa part. Voilà ce qu'est l'employé injuste, celui qui, finalement, ne fait pas bien son travail. Eh bien, cette description peut peut-être nous faire penser à quelqu'un que nous connaissons, mais pour vous que nous ne soyons pas ce quelqu'un. Paul s'adresse enfin au maître chrétien, au début du chapitre 4. S'ils ont autrefois été durs et injustes, eh bien, il ne doit plus en être ainsi. Car désormais, eux qui ont donné leur vie à Christ, eh bien, eux aussi, ils ont un maître dans le ciel qu'ils sont appelés à servir. Et dans une moindre mesure, si certains d'entre nous sont managers et que des personnes travaillent sous notre direction, nous devrions savoir les traiter selon ce qui est juste, en étant équitable. Rien que moins que cela. Et vous seuls savez ce que cela signifie dans votre travail. Je ne vais pas vous dire comment vous devez travailler en tant que manager, mais vous savez ce que ça signifie. Juste dans votre travail. N'oublions pas, pour ceux d'entre nous qui, effectivement, sont encore en train de travailler et qui doivent rendre des comptes à autrui, que le Seigneur n'est pas loin de nous. Nous pouvons bien sûr espérer que notre supérieur saura évaluer notre travail à sa juste valeur lors de notre bilan annuel, mais il est plus juste en tant que chrétien que nous travaillons de tout notre cœur comme pour le Seigneur. Parce qu'avant toute chose, c'est Christ que nous servons. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans le monde du travail ou qui n'ont pas de compte à rendre pour leurs activités, eh bien, priez. Priez pour vos frères et sœurs qui sont des employés ou des managers. Parce que vous le savez, les conditions de travail ne sont pas toujours agréables, et j'en suis conscient. Et pourtant, Dieu veut toutes circonstances que nous travaillons de tout notre cœur. Et notons au passage que contrairement à la plupart des esclaves de l'époque, nous pouvons dans certaines circonstances changer de travail, ou travailler pour quelqu'un d'autre. Chose que les esclaves n'avaient pas forcément la possibilité de faire. Et je vous lis simplement quelques lignes d'une prière qui serait celle d'un artisan au Moyen-Âge. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Dans tout le labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres. Et un défaut de moi pour me parler à moi. Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrai cœur ou courage. Et garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je perdrai orgueil. Purifie mon regard. Quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant. Que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire bien et de faire à ta gloire, c'est tout de suite. Et c'est vrai que cette dernière phrase de cette prière m'interpelle particulièrement. Le temps de bien faire, de bien travailler, et ce temps pour ta gloire, c'est tout de suite. Faisons tout au nom du Seigneur dans notre famille, dans notre travail, et ajoutons avec l'apôtre Paul dans notre évangélisation. Paul donne une exhortation qui est courante dans le Nouveau Testament, à partir du verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et je pense que je ne vous apprends rien en disant que, avec la lecture de la Bible, la prière est un domaine pour lequel les chrétiens ont souvent à rougir. Trop souvent, je l'ai entendu ici ou ailleurs, tel frère, telle sœur qui avoue que sa vie de prière est pauvre. Et je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, mais je dois quand même souligner que ce ne devrait pas être la norme des chrétiens. Visiblement, nous manquons, et je m'inclus dedans, nous manquons assez vite de persévérance quand il s'agit de prier. Et doit-on le dire encore, les chrétiens ne doivent pas négliger de prier Dieu avec assiduité. Et cela est valable autant lorsque nous sommes seuls avec lui que lorsque nous sommes rassemblés devant lui. Et Dieu nous révèle dans ce verset ce qu'il veut et ce qu'il demande. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Veillez-y parce que notre tendance est à la négligence. Notre tendance est à la distraction. Donc, veillez-y. Dans une attitude de reconnaissance. Et vous remarquez que, de nouveau, Paul parle de reconnaissance dans cette lettre aux Colossiens, comme il l'a fait précédemment. Veillons à ce que, effectivement, rien ne nous détourne de la prière qui devrait simplement être notre habitude. Et Paul compte sur les prières des Colossiens, comme nous le voyons au verset 3 et 4. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. La prière n'est pas seulement le fait de parler à Dieu, c'est aussi lui demander d'agir, en sachant que tout dépend de lui, en sachant que lui est souverain sur les événements. Et notez l'image que l'apôtre Paul évoque, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Nous comprenons par cette image qu'il est question d'occasion favorable, que Dieu nous ouvre une porte. Non pas pour que Paul puisse sortir de prison, vous l'avez remarqué. Il ne demande pas qu'une porte s'ouvre pour qu'il puisse sortir de prison, mais il demande qu'une porte s'ouvre pour qu'il puisse continuer d'évangéliser, pour qu'il puisse continuer d'annoncer la bonne nouvelle autour de lui. Puisse continuer de parler de Christ, par qui Dieu a réconcilié les hommes et les femmes de toute nation avec lui-même. Ce sujet de prière importe pour Paul, et vous voyez qu'il n'hésite pas à le partager dans cette lettre. Bien sûr, sans doute qu'il devait prier pour cela, mais il demande aussi aux Colossiens de se soucier des progrès de l'Évangile. Est-ce que cela nous intéresse de savoir si l'Évangile progresse dans notre pays et plus largement dans notre monde? Est-ce que nous prions à ce sujet? Parce qu'on pourrait se demander pourquoi Paul prend la peine de demander aux Colossiens de prier pour ça, alors que lui-même pourrait prier pour ça. Et Dieu entendrait aussi. Mais il veut associer les Colossiens au progrès de l'Évangile. Pensons aussi aux missionnaires pour qui nous pouvons prier, pour qui nous pouvons remercier Dieu. Pensons aux ouvriers que nous connaissons et qui sont dans la grande moisson. Et après la mention de ce ministère, eh bien, Paul encourage les Colossiens à ne pas perdre de vue que le temps est court. Conduisez-vous avec sagesse, verset 5, envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Alors nous pourrions nous demander quel est le rapport entre notre manière de nous conduire avec les gens de l'extérieur, vous prenez les non-croyants, et le fait de racheter le temps, d'en faire bon usage. Quel est le lien entre les deux? Il est clair que la préoccupation de Paul est que l'Évangile continue de se répandre auprès de ceux qui sont encore en dehors de la famille de Dieu. Les chrétiens, avec le temps qu'ils ont ici-bas avant le retour du Seigneur, ont un rôle à jouer par leur témoignage de vie, par leur conduite, mais aussi par leur parole. Le temps est court, donc conduisez-vous avec sagesse, avec les gens de l'extérieur. Le rapport entre le fait de bien se conduire avec les gens de l'extérieur et le fait de faire bon usage de son temps, c'est que ça va ensemble. Et le temps est court parce que Christ revient bientôt. Je termine donc par la manière dont les chrétiens doivent user de leur parole. Verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous comprenez bien que dans le contexte, il ne s'agit pas de répondre à n'importe quelle question, mais il s'agit de pouvoir répondre aux questions qui concernent notre foi, notre espérance. L'évangélisation ne s'arrête pas à notre conduite. Il s'agit aussi de parler, de savoir défendre notre foi et notre espérance. À qui nous demande d'y répondre? D'un certain côté, je dirais même que notre conduite en tant que chrétien doit interroger ceux qui n'ont pas la foi. Alors que le Seigneur nous aide à le glorifier en actes et en paroles. Et c'est pour cela que cela commence déjà dans nos foyers, si je reprends ce que nous avons dit précédemment. Quand Paul donne toutes ses instructions aux Colossiens, il n'oublie pas de souligner que tout le comportement des chrétiens est motivé par Christ. Et c'est ce que nous devons retenir. Ainsi, pour Christ, les femmes se soumettent à leur mari. Pour Christ, les maris aiment leurs femmes et ne nourrissent pas d'amertume à son égard. Pour Christ, les enfants obéissent en tout à leurs parents. Pour Christ, les pères n'exaspèrent pas leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les décourager. Pour Christ, ceux qui travaillent le font de tout leur cœur et refusent toute manœuvre injuste ou malhonnête. Pour Christ, les patrons se montrent justes à l'égard de leurs employés. Pour Christ, les chrétiens persévèrent dans la prière et prient en particulier pour les progrès de l'Évangile. Et pour Christ, ils se conduisent avec sagesse, ils parlent avec sagesse avec les non-chrétiens, car ils savent que le temps est court. N'oublions pas cette motivation qui est première dans tout ce que nous faisons. C'est ainsi que nous pouvons dire ce qu'est vivre comme il convient dans le Seigneur. Je vous invite à avoir un temps de prière. Que vous puissiez repenser aux différentes instructions que l'apôtre Paul a données dans ce texte, qui reflètent ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande dans notre vie ici-bas. Prions-le, demandons son aide, demandons-lui de pouvoir appliquer réellement tout ce qu'il nous demande ici. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais avec son aide, c'est possible. Merci notre Dieu pour ta parole, pour toutes ces instructions qui ont été données aux chrétiens de l'époque et qui nous concernent également. Seigneur, nous te demandons d'œuvrer en nous, de continuer à œuvrer dans tes enfants pour qu'ils puissent appliquer ce que tu demandes. Parce que c'est réellement ainsi que nous reflétons ce qui est appartenir au Christ. Dans tous les aspects de notre vie, particulièrement dans notre famille, dans notre travail, mais aussi dans notre évangélisation, dans notre manière de dialoguer avec ceux qui ne te connaissent pas. Et nous sommes conscients, Seigneur, que sans toi, nous sommes incapables. Mais merci parce que tu nous donnes la capacité par ton esprit qui nous change vraiment, qui nous transforme, qui fait que nous pouvons avoir de l'espoir. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'avant toute chose, eh bien, si nous suivons tout cela, c'est avant tout pour te plaire. C'est avant tout parce que nous reconnaissons que c'est la vie nouvelle que tu nous as donnée et que c'est ce que tu attends de nous. Nous voulons tellement te remercier pour la grâce que tu nous as faite d'avoir obtenu cette vie nouvelle. Une vie qui va jusque dans l'éternité. Une vie auprès de toi. Nous prions, Seigneur, que en toutes circonstances, nous ne puissions pas perdre de vue que tu es toujours là pour voir ce que nous faisons, toujours là pour nous rappeler aussi ce que nous devons faire. Et accorde-nous aussi particulièrement la persévérance dans la prière. Accorde-nous cela, Seigneur, d'autant plus parce que nous savons que le temps est court. Nous savons que il y a tellement de besoins pour lesquels nous pouvons prier, et particulièrement pour tout ce qui concerne les progrès de l'Évangile. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes de prière assidus, qui sachent te demander effectivement d'ouvrir une porte pour l'Évangile. Non seulement pour nous, lorsque nous avons des autres pouvoir répandre cet Évangile, mais aussi pour tous. Pour celles et ceux qui œuvrent aussi dans la moisson, au loin comme au près. Et nous te demandons, Seigneur, que cette bonne nouvelle puisse continuer de se répandre pour ta gloire, pour que, effectivement, il y ait des hommes et des femmes qui continuent de venir à toi, d'être transformés, et ainsi de vivre aussi la vie que nous venons de voir. Et ainsi, nous ne doutons pas que cela puisse transformer bien des familles, bien des lieux de travail. Et nous te bénissons pour cela, parce que tu œuvres à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui t'appartiennent et qui œuvrent dans ce sens-là. Au nom de Jésus.